Bonjour à tous. Bon après-midi. Ça va? Bien. Je voulais déjà me présenter pour dire éventuellement comment je suis rentré dans le projet. C'était juste pour dire que moi, à la base, donc je suis docteur en histoire contemporaine, mais plutôt sur tout ce qui relève des thématiques du cinéma de série B, de série Z, donc une forme de culture marginale. Et si je suis devenu chercheur ou historien, c'est parce que j'avais envie de dépasser ma simple posture de spectateur. J'avais envie de faire quelque chose de ces films différents que je regardais, et j'ai essayé de faire la même chose avec mon statut de spectateur de concert, et c'est pour ça que je suis là. Et donc dans le cadre de la NR, je vais pas trop bouger la chaise. Et donc dans le cadre de la NR Pind, pour l'instant, je parle surtout donc de la souris déglinguée et de son univers. Et dans le cadre d'une journée comme celle-là, c'est aussi intéressant de s'interroger sur les rapports entre dans ces paroles. Pour l'instant, peut-être dans d'autres interventions, je parlerai d'autres choses autour de la souris déglinguée, mais pour l'instant, je me suis consacré aux paroles pour déjà m'interroger justement sur les rapports entre le punk et la violence. Et c'est intéressant de remarquer que, par exemple, au niveau de la définition même de punk, on remarque que, stricto sensu, sur sa biographie, Olivier Richard, quand il écrit la biographie de la souris déglinguée, il dit « groupe de rock'n'roll ». Chronologiquement parlant, c'est un groupe qui est à la fois situé entre la première génération punk et la première vague alternative, et aussi que dans les premiers morceaux que la souris déglinguée, ou même quand on écoute les premières rythmiques du premier album, on est plutôt dans des choses qui relèvent du rock'n'roll au sens large. Et ce qui peut-être permet d'entrer le rapport du groupe à la violence. Moi, je me suis aussi interrogé là-dessus au départ en me disant, est-ce que c'est le groupe lui-même qui est violent? Est-ce que c'est ce groupe qui provoque la violence? Est-ce que c'est son public? Ou est-ce que c'est les paroles? Et dans le cadre de la souris déglinguée, effectivement, il y a eu une nombreuse presse là-dessus, c'est le public. Le public roman, on peut l'appeler public de mauvais garçons, de jeunes gens, sont ce public extrêmement divers et extrêmement à la fois participatif et pour certains extrêmement fidèle. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais articuler mon intervention dans les rapports entre ce public et ces textes, parce que c'est aussi ce qui fait l'intérêt des textes de la souris déglinguée, c'est dans les adresses, dans la façon dont ces textes décrivent une période, mine de rien, assez localisée dans le temps. Quand on parle des premiers textes de la souris déglinguée, des textes qui font sa mythologie, c'est-à-dire qu'il y a une partie des textes de LSD qui parlent de Paris à une certaine époque, fin années 70, années 80, il y en a d'autres qui vont plutôt se mettre à aller parler de l'Asie du Sud-Est. Et moi, pour l'instant, les traces de violence, les évocations, les allusions de violence, je les ai principalement trouvées dans ces premiers textes qui racontent un autre Paris différent entre les années 70 et à peu près 83-84. Dans les années 80, ça c'est une date que quand je l'ai interrogé il y a quelques semaines, Taïluk m'a dit, moi, à peu près les concerts où il y a vraiment beaucoup d'embrouille, de manière dense, ça arrive jusqu'en 83-84. Après, c'est pas exclu que de manière plus ponctuelle, il y ait des concerts problématiques, mais ces concerts qui ont donné en fait cette mythologie au groupe et qui lui ont donné toute sa promotion se situent encore dans cette période-là. De la sorte, moi, dans cette intervention, ce que je me suis dit, j'allais peut-être interroger les rapports entre la mythologie autour du groupe et le contenu des chansons, c'est-à-dire comme vous lisez concrètement, est-ce que les textes du groupe parlent de violence et est-ce qu'ils sont conformes à cette mythologie violente qu'on met autour du groupe? Dans un premier temps, se pose aussi déjà la question de comment les chansons sont définies par son principal compositeur, qui pourra me reprendre après. Pour les questions, donc, Taïluk les définit comme soit des fictions inspirées de la réalité, soit des reflets culturels de cette époque. Donc ce qui se pose la question de d'où est venue l'inspiration, et en écrivant les chansons, en les peut-être en sublimant ces faits divers des années 70-80, qu'est-ce qui en est resté? Et moi, dans cette première partie, j'ai essayé de définir justement cette question de la violence en trois thèmes principaux. Le premier, on a entendu Rock'n'Roll Vengeance tout à l'heure, c'est la violence en tant que représentation de la rébellion et de la destruction. Comment est racontée cette violence? Effectivement, c'est une violence donc produite majoritairement par un public jeune qui cherche pas nécessairement, et encore, on reviendra peut-être là-dessus, pas nécessairement à revendiquer, mais à exister, à montrer son trop-plein d'énergie contre qui? Contre les autres, ceux qui ne sont pas comme eux, ceux qui sont dépositaires de l'autorité, je pense, oui, Jaurès, Stalingrad, voilà, à bas les adultes qui bloquent la ville, tous des salauds à l'état brut. Donc il y a cette possibilité-là. Cette rébellion, cette destruction, elle s'exerce dans un cadre qui est quand même qui se définit beaucoup par l'ennemi. Je pense à la chanson Rien n'a encore changé, où Rien n'a encore changé, on marche encore sous la pluie, je confonds là, ouais. on marche toute la nuit, on marche encore sous la pluie sans avoir rien trouvé de mieux à faire que de foutre en l'air des poubelles. Et cette génération, je parlais de destruction parce que d'ailleurs dans Rock'n'Roll Vengeance, au moment du refrain, voilà, on entend clairement génération destruction. Donc cette façon de le dire. Deuxième façon de voir les mots dans les chansons, c'est cette violence comme expression de la vie d'une certaine jeunesse. Donc cette jeunesse qui donnait des coups de pied dans les poubelles, dans Rien n'a encore changé, cette jeunesse qui était possédée, peut-être comme tout, toujours, quand on est jeune, on n'est pas sérieux, quand on a 17 ans, disait le poète, et donc cette jeunesse qui est pénétrée par une espèce d'urgence, parce que là, je pense à une chanson comme Jaurès, Stalingrad, où on parle de cavaler sur les rails pour leur échapper aux autres, à ces gens, à cette autorité, ou tout simplement une jeunesse dans une forme d'urgence, mais une jeunesse qui est toujours plus ou moins, qu'elle les ait provoquées ou pas, mais au cœur d'embrouilles, de problèmes, et dans lesquels donc, s'exercent des mécanismes de solidarité ou d'autres, mais voilà, on est toujours un peu sur le qui-vive, parce que comme on s'ennuie, on essaye de s'occuper comme on peut, et des fois on fait des choses qui provoque voilà, des embrouilles. Je pense voilà, à la chanson donc, Yasmina, Petit Arabe, donc 1981. Voilà, dis-moi donc qui t'a péfra et jamais il recommencera. On est dans une forme de fait divers. Et dans cette. Mon intervention s'intitule donc sur. Parle des paroles, mais il y aurait aussi. L'importance de tous les commentaires générés, parce qu'on est quand même dans des chansons qui sont, pour les premières, très 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 courtes, et dans certains cas, donc le co-texte, les commentaires générés par Taïluk sur les chansons est souvent plus dense que les chansons elles-mêmes. Je pense l'album As-tu déjà oublié, donc qui ressort fin années 2000-2010, mais qui en fait la publication d'un très vieil album qui aurait dû sortir en 1980, où dans la réédition, en fait, en quatrième de couverture, vous avez la liste des chansons, mais vous avez à chaque fois un petit texte de 5, 6, 7, 10 lignes où Taïluk nous refait l'historique de cette chanson. Le troisième aspect dans cette question de la violence, c'est une violence, alors le terme allusif, peut-être que je le rechangerai dans le futur, mais il y a l'idée d'une violence frontale, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les textes des chansons, il y a de la vulgarité, il y a un narrateur et d'autres personnages qui déclarent leur haine à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu le sais pourquoi je te hais? Mais moi, je suis parti sur cette idée de la violence, ce serait quoi mon idée de la violence, moi, dans ces chansons punk? Ce serait, alors c'est très simpliste, mais Est-ce que c'est un discours contre les flics? Est-ce que c'est des récits d'automutilation, de destruction? Et dans les chansons de LSD, j'en trouve pas forcément de manière ouverte. C'est-à-dire qu'au détour d'une chanson, on entend parler dans « Plus la nuit sera blanche », on entend parler de « On videra dans l'eau toutes nos canettes de crocs », donc bon, on parle de bière. Dans « Tendance négative », on parle de prendre du fringanor dans les chiottes à Guerre du Nord, mais il n'y a pas forcément d'équivalent de ce qu'on peut trouver dans une chanson comme « Les fraises du sang » d'OTH, où c'est extrêmement direct, ou de récits interlopes d'achat de drogue, comme dans « Jour de chance » d'Era. Je ne vois pas d'équivalent, et il y a surtout très très peu de déclarations de guerre ouvertes aux policiers, c'est-à-dire que même dans une chanson comme... J'ai un trou. La chanson qui fait référence au concert de l'Opéra Night, Allez les gars. Voilà, par exemple, même la chanson Allez les gars, qui est une sorte d'adresse à tous les gens qui étaient présents un soir de 1980, un concert de l'Opéra Night qui a été fondateur dans la mythologie de la souris déglinguée pour les débordements qui ont suivi. Quand on évoque ces débordements-là, on parle de... on dit danse maintenant, danse le pogo le bop, faites danser qui vous voulez avant que viennent les policiers. Donc on a quand même une évocation très, très sublimée du pogo et de sa violence qui pouvait être effective. Ce qui est pertinent aussi, c'est de se dire que les premiers textes sont très courts, aussi de ce que m'en a détaillé Luc, pour que le public puisse s'en souvenir et puisse les reprendre assez facilement, mais on est face à des textes qui, très très vite, dans les années 80, vont devenir très très longs, avec encore plus de références. Et une anecdote dans la biographie d'Olivier Richard, qui disait, par exemple, on arrive en 1997 à un texte qui s'appelle « La fin des années 70 », qui est le texte intégral de la chanson, est plus long que quasiment tous les textes du premier album, donc on arrive à des chansons plus longues, autrement construites. Cette violence, donc dans les chansons, à travers les mots, on peut parler d'une forme de mise en scène. On peut, alors là c'est ce que tu m'avais dit, c'est aussi, c'est pas une violence aussi provocatrice que celle qui a pu être véhiculée par des figures comme Sid Vicious ou des paroles aussi basiques que ce que peut chanter The Exploited quand ils chantent Sex and Violence ou quand ils reprennent la chanson Fuck the Mod. Il y a des déclarations d'intention, mais pas forcément toujours constructives. Et dans cet ordre, ce qui est intéressant aussi, se pose la question dans ces chansons, comment, à qui sont adressées ces chansons. Et donc dans ces premières chansons qui parlent majoritairement de révolte, d'urbanité. Et de la sorte, la question de la violence, en tout cas, si on considère que c'est un roman historique, une sorte de pacte autobiographique fantasmé sur la vie parisienne telle qu'elle était à l'époque, eh bien on peut aussi comprendre cette violence comme l'instabilité d'un certain public à un certain moment donné. Et donc de la sorte, là c'est peut-être plutôt j'ai parlé de contexte d'énonciation, donc c'est le professeur de français qui parle, de la sorte on pourrait se demander qui est le jeu dans ces chansons. Ça peut être spontanément, on peut se dire que c'est Taï Luc. On peut dire que donc Taï Luc qui raconte sa vie. Ça peut être un Taï Luc fantasmé qui se met en scène dans cet univers parisien particulier. Ou on peut dire aussi que c'est un jeu qui est le symbole d'une jeunesse de jeunes cons. Je cite la chanson d'une jeunesse. Qui aime aller à des concerts, qui de temps en temps, qui est assez turbulente et qui s'emmerde. Donc je pense à la chanson, quand je m'emmerde toute la nuit, je fais des conneries, c'est vrai. Mais les conneries que je fais n'ont jamais blessé personne. Et donc ce jeu peut être vu comme plus qu'un spectateur, mais pas forcément un spectateur qui va systématiquement aller aller directement dans le pogo, mais qui va observer le pogo se développer et qui va essayer de le retranscrire à sa façon dans ses textes. Deuxième aspect, c'est ce toi ou ce nous dans les textes. Donc il y a forcément... donc qui désigne-t-il ? Le toi peut être effectivement, comme dans la chanson Rock'n'Roll Vengeance, avoir une consonance accusatrice. Donc est-ce que tu le sais pourquoi je te hais ? Et à contrario, le nous, quand il fait référence à la raya, à tous ces groupes-là, peut aussi avoir une résonance exclusive, c'est-à-dire que le nous désigne tous ceux qui font partie de ce même groupe, qui essayent de s'amuser contre ces autres personnes qui ne les comprennent pas. Et on pourrait aussi en reparler, c'est que cette violence, c'est, en tout cas dans les textes, n'est pas forcément vue sous son aspect dans les premiers textes d'un point de vue moralisatrice. Il y a une phrase qui symbolise bien ça, qui pourrait être largement discutée dans le cadre d'autres interventions. Donc dans la chanson Soldats perdus, peu importe leurs idées, puisqu'il y a l'amitié. Et ça fait écho aussi à quand je m'emmerde. Je veux dire, voilà, je fais des conneries, je tape dans les poubelles, mais j'ai tué personne, j'ai blessé personne. Et donc, ce public, ce je, ce toi, ce je et ce nous, dans ces textes, vivent, je le disais avant, une vie d'ennui. Et ça fait écho à une phrase que j'ai lue dans la biographie de Didier Ramon, qui dit quand on est jeune et qu'on s'emmerde, il faut être sacrément imaginatif pour faire quelque chose. Et après, voilà, l'imagination, il le dit, moi, ça pouvait m'emmener à... On allait en haut des immeubles, on balançait des télés sur les passants, etc. etc. Donc il y a cette idée, on s'occupe. On ne sait pas forcément si notre occupation va tout le temps être bien jugée par les gens, mais on fait ce qu'on peut. Le troisième aspect dans l'adresse, et ce qui fait aussi la force des textes de la Sourde Déglinguée, c'est effectivement, alors j'ai mis le lâcher de nom parce que pour franciser ça, mais bien entendu ça veut dire name dropping, c'est-à-dire que beaucoup des textes, même s'ils sont au départ allusifs, se colorent de l'évocation de noms propres qui nous permettent de nous rattacher à des lieux ou de nous rattacher à des figures de cette raya, de cette figure turbulente. Et donc effectivement, quand on est public et qu'on a connu ça, on peut effectivement se reconnaître dans les chansons. Au concert, c'est d'ailleurs une des techniques d'introduction des chansons de la part de Taïluk, quand il dit « Ah bah, tu es prêt, quand oui, ça tombe bien, tu es dans la chanson où je dédicace cette chanson au jeune homme qui est au premier rang, ça tombe bien parce qu'il est dans la chanson, etc. » Ça permet à la fois, quand on a vécu, de se reconnaître, mais quand on est comme moi, et qu'on a à peine la trentaine et qu'on ne connaît pas ces gens-là, on peut voir aussi ces personnages comme d'une manière peut-être assez romancée au sens propre du terme. On peut voir ce pari de jadis comme une sorte d'histoire assez particulière. Et donc de la sorte, la question de la violence se permet aussi de s'interroger sur la notion de fraternité dans l'écho qu'ont les chansons, ces chansons-là auprès du public, c'est-à-dire que c'est des chansons, en tout cas pour les premières, qu'on va chanter ensemble, parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles sont... prenons l'exemple de Salut les copains, où le titre de la chanson fait quand même à peu près 75-70% de la chanson, c'est quand même plus facile de reprendre ça en fin de concert quand on est un peu fatigué, qu'on a un petit peu bu. Mais aussi, voilà, avec cette idée de... là, en écoutant ces chansons-là, on me fait revivre une mythologie et on la partage tous ensemble. En dernière partie, on se pose la question de, alors ça c'est plutôt une ouverture, la question de comment interpréter ces chansons, parce que il faut les étudier, en tout cas pour en tant qu'historien, faut les étudier à l'aune de phénomènes, c'est-à-dire qu'au départ par exemple ces chansons là sont très concises et elles s'enrichissent, mais aussi le fait que ce public, le public qui a été évoqué dans ces chansons-là, vieillit, il meurt, et qu'on va avoir aussi, par exemple, des chansons qui vont se répondre les unes aux autres. Je pense, plus on va progresser dans la chronologie, c'est-à-dire que, par exemple, il y a la chanson en 82 ou 83, « Fais pas le con », qui fait référence à Jean-Pierre Tercadec, qui était l'harmoniciste du groupe, qui a fait une tentative de suicide. Et donc une adresse de, bah voilà, recommence pas, fais attention. Et sauf que bah, la vie est ce qu'elle est, 4-5 années plus tard, la même personne meurt de circonstances non naturelles, et le groupe va lui dédier une chanson, donc en 88, partie sans dire adieu. Donc on a aussi voilà, ces connexions qui se font, on a des personnages qui sont évoqués dans des chansons de 82 et qui reviennent ensuite, plus tard. Donc comme interprétation possible, il y a peut-être la plus simple, l'optique biographique. Tai Luke, quelqu'un qui s'assimile à Tai Luke, nous raconte la faune parisienne à l'époque. Il commence par nous raconter cette faune parisienne, et ensuite, en fonction de son parcours personnel, professionnel, sa focale va s'élargir de plus en plus. On va avoir des contenus d'albums qui s'intéressent de plus en plus à l'Asie du Sud-Est, et ponctuellement, quelques chansons qui vont réactiver ce souvenir de ces premières chansons-là, et avec quasiment une idée de nostalgie. Je pense par exemple dans le dernier album sur les toits du palace, quand on a une chanson qui fait référence à donc Little John, qui fait référence à Petit Jean, un activiste membre de la Raya, je crois Del Vikings aussi, etc. Donc on a cette idée, on ne peut pas, moi de mon point de vue, je ne peux pas le faire autrement que l'appréhender selon l'aspect soit élégiaque, soit nostalgique. De la même façon, quand en 91 on a une chanson qui s'appelle Paris aujourd'hui, elle fait écho elle peut faire écho à des chansons qui évoquent le Paris années 80, type Je reste Stalingrad. Deuxième aspect, et peut-être ça pourrait permettre d'évoquer ce que disait Luc tout à l'heure, c'est aussi alors l'optique symboliste ou l'optique poétique, c'est-à-dire que on peut aussi voir ces chansons, qu'elles soient concises ou de plus en plus longues, comme un moyen d'exprimer ce qui était un sentiment, alors je ne vais pas redire violence, mais un sentiment un besoin d'exister, un besoin de se rebeller de la part d'une certaine jeunesse. On peut aussi, alors là je manque, donc c'est pour ça que là je donne des pistes, on peut aussi voilà, évoquer ces chansons à travers leur musicalité, leur scansion. Et effectivement, quand on parle, c'est toujours le problème, quand on parle de... Alors je dis poésie au sens large, quand j'en parle avec mes élèves, mais voilà, quand on parle de la poésie d'une chanson, on peut difficilement faire l'abstraction de l'étude de la collision entre texte et paroles. C'est-à-dire que quand on a des paroles qui ne sont pas forcément violentes, mais qu'on a un rythme qui est quand même beaucoup plus martial et beaucoup plus binaire, ou qu'on a un chanteur... qui chante d'une manière beaucoup plus agressive, beaucoup plus âpre, se pose cette question. Je pense à des chansons qui, même si elles contiennent de la violence, mais j'ai ces chansons-là en tête, donc courant 82-83, quand certaines des chansons de la souris déglinguée se rattachent beaucoup plus ouvertement à la Oi ou à quelque chose de plus direct, comme bah, la chanson en France... Pourquoi ? Ou par exemple, le dernier pogo à Paris, où quand on écoute les chansons, on sent clairement que Tai Luke force un peu plus sur sa voix et qu'on a une voix un peu moins mélodieuse, mais une voix beaucoup plus directe. On peut difficilement percevoir les paroles de manière neutre dans ce cas-là. Et la dernière optique, alors sociologique avec de gros guillemets, c'est toujours la question quel sens donner à ces chansons ? Et on sait... On sait tous ici, voilà les ambiguïtés qu'il peut y avoir sur le groupe, la presse que le groupe a générée. Même quand on s'attache, et là je ne parle que des chansons, quand on s'attache à ça, on se trouve en tout cas dans les premières, on peut plus parler de déclaration d'intention d'une jeunesse à quelqu'un qui dit bah, « je t'aime pas », voilà, etc. Mais on peut pas parler de manifeste politique ou de vie structurée, c'est-à-dire qu'il faut attendre, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais vraiment à partir des années 80, fin des années 80 ou début années 90, pour qu'on ait des chansons qui, non pas arrêtent de parler de faits divers, mais parle d'événements autres, internationaux, que ce soit en 91, les rues de Pékin qui évoquent Tiananmen, le soulèvement sur la pièce Tiananmen, ou en 95, Brigitte Bardot cambodgienne, qui parle de géopolitique en Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup moins ça, c'est mon sentiment, et on peut tout à fait en discuter, c'est le but, dans ces chansons-là. Ce qui est plus évident dans les chansons, c'est qu'effectivement, on peut voir ça comme des vignettes des vignettes peut-être fantasmées, peut-être sublimées de ce Paris à l'époque-là. On peut voir, on peut peut-être voir ça comme un côté donc étude en sens social qui, au fur et à mesure que les paroles se sont enrichies, a été peu à peu assumé, et on peut aussi voir ça comme une comme le reflet, en tout cas, de ces premières chansons, le reflet d'une image que le groupe a dû assumer, parce que ça a été et ça reste maintenant une grosse partie de sa carte de visite, même si j'ai beaucoup vu, beaucoup trop, La Souris Déglinguée en concert, parce que je me suis dit à un moment donné, j'ai envie de se voir ce groupe-là, et je vais essayer de le voir le maximum de fois possible pour observer le public, pour me dire, à tel moment, je vais me mettre devant, là, je vais me mettre derrière, et je vais voir les gens qui reviennent d'habitude, et je vais prendre des notes, quoi. Comme quand j'allais voir mes films au cinéma, quoi. J'observais le public. Même chose, je regardais pas forcément la foule. Et donc, on peut vraiment on peut s'interroger sur le décalage qu'il peut y avoir entre la mythologie du groupe, entre la violence, en tout cas évoquée dans ces chansons, et les concerts actuels, sachant que quand j'interroge Ty Luke dessus, il dit oui, bon, on avait des éléments un peu turbulents, mais moi, le concert le plus violent que j'ai vu, c'est les Stones aux abattoirs de Pantin en 76, ou etc. Quoi. Ça fait écho au Quand je m'emmerde, c'est que ces gens-là pouvaient être, ont pu avoir un casier ou autre, quoi que ce soit, mais ils n'ont tué personne, même s'ils ont pu emmerder beaucoup d'autres personnes. En conclusion, je vais contenter de me dire que par rapport à la mythologie qu'on a sur le groupe, on peut peut-être, dans les textes, la plupart du temps, nuancer ce rapport à la violence, parce qu'il est peut-être souvent... Je pense que le plus intéressant, si on veut étudier la question de la violence dans les textes de LSD, ce serait de voir comment elle s'enrichit d'une étude sur le comportement de son public. C'est peut-être là que ça fait un peu plus de sens. Ce serait intéressant, mais là le temps manque, de dire mais qu'est-ce que retiennent d'autres publications littéraires qui s'inspirent du groupe. Je pense à un livre de nouvelles que Camion Blanc a fait paraître il y a quelques années, où on avait 30 écrivains, journalistes passionnés qui écrivaient 30 nouvelles à partir de 30 chansons du groupe. Et pour l'avoir lu, on retient cet état-là urbain, fin années 70, début années 80. Mon explication provisoire, c'est de dire que peut-être ces textes ont été une façon de sublimer un quotidien qui, aux yeux des autorités ou d'autres personnes, n'avait peut-être pas grand-chose de glorieux. Merci à tous.
Tu peux laisser la dernière diapo ? Ah là là, ouais. En tout cas, merci Nicolas pour ce parcours sur le corpus des chansons de La Souris Déglinguée. Et je pense qu'il va y avoir des questions, des réactions peut-être sur ce qui a été... Ty Luke peut réagir s'il veut, s'il a quelque chose à dire. Autrement, il s'exprimera tout à l'heure sur la table ronde aussi. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Hein.
Non, c'était juste une remarque, mais parce que je ne suis pas du tout un connaisseur de ce groupe. C'est dommage que tu n'aies pas fait écouter un petit medley, tu vois. Voilà, pour donner un aperçu et présenter peut-être un peu le groupe de façon générale, les périodes. Bon, ça, c'est le côté un peu discothécaire, tu vois. Donc, on a besoin d'avoir un... Et les albums phares, voilà. Et avec quelques pochettes. Mais bon, c'est juste, c'était très bien, mais pour mieux connaître... En même temps, c'est ton truc, donc tu connais très très bien le sujet, c'est normal, et l'analyse, mais pour des gens qui sont moins... plus vulgarisants, voilà.
J'ai une petite question à poser à Ty Luke, si tu me permets. Je me souviens des concerts de La Souris Déglinguée des années 80, bon... Nous, on était jeunes, punk et compagnie, mais on n'osait pas aller au concert de La Souris Déglinguée parce qu'il y avait souvent beaucoup plus de skinhead que de punk. Alors, je voulais savoir ce que tu en penses de ça, parce qu'il y avait une connotation de La Souris Déglinguée à l'époque, hein, j'entends bien, un groupe un peu plus fascisant que les autres groupes de punk. C'est une question que j'allais te poser parce que ça nous faisait un peu peur. On aimait bien La Souris Déglinguée, c'était chouette. Mais il y avait quand même une confrontation et des bastons à n'en plus finir, hein, j'ai un bon souvenir de ça, un très bon souvenir. On va en parler tout à l'heure, peut-être à la table ronde, de Sébaston, parce qu'on était jeunes et pères. Mais pourquoi ça a attiré autant aussi la jeunesse skinhead de l'époque ?
Bon, écoute, merci pour ta question, Michel, c'est ça, hein ? Ok. De la miroiterie. Qu'est-ce que je peux répondre pour ma défense ? Ça va être difficile. Pour ma défense, je vais dire que le problème, c'est que les jeunes skinheads qu'on a connus à l'époque, pour pas les désigner davantage, en fait, ce sont d'anciens punks, tu vois. Donc, voilà, ils ont... quand tout ça a démarré, à l'époque, tout le monde est fan des Pistols et des Clash. Et puis, il y a un troisième groupe qui arrive dans la mêlée. Autrement dit, c'est le groupe de Jimmy Pursey, l'ancien parieur dans les courses de Lévrier, et qui décide de faire les Clash et les Pistols à leur place. Donc il fait les Sham 69. Et donc vers 78, tout le monde arrête d'écouter les Pistols et les Clash. On a trouvé mieux. Donc on écoute tous Jimmy Pursey et Sham 69. Et voilà le problème, c'est que tu sais que les Français, ils sont un peu comme les Japonais. Donc ils imitent tout ce qui se passe en Angleterre. Donc à Paris, on a imité tout ce qui se passait en Angleterre. Donc ceux qui avaient les cheveux longs, après ils ont eu les cheveux courts, et après ceux qui ont eu les cheveux courts les ont eu encore plus et sont devenus d'affreux chenapans, on dira, pour employer un terme soft, voilà. Et puis ça rejoint un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Puisque ça s'appelle, je crois, question de violence avec un S ou sans S. Et il faut dire qu'aussi, la musique punk, c'est les gens qui la pratiquent, enfin, qui la pratiquaient à l'époque, si tu veux, ils ont donné aussi le bâton pour se faire battre. Parce que dans la musique punk, il y a toute une violence intrinsèque qui a été soulignée par Luc, au niveau des battements, au niveau des mélodies, il n'y en a presque pas. Mais il y a tout ce qu'il faut pour, si tu veux, pour satisfaire des jeunes gens qui par leur origine sociale, je dis ça en France, pour les premiers partisans du punk rock, quand tu viens de banlieue parisienne et que tu t'accroches à ce rock simplifié, donc t'es vraiment attiré par la chose. Et je dirais qu'en fait, le problème du punk rock, c'est qu'il attire cette clientèle. Et donc, il attire les punks, il attire les skinheads, il attire ensuite les bikers et compagnie. Et t'arrives après, c'est l'histoire du squat des vilains, du public du squat des vilains, le public de tous les squats. Donc, un public de gens qui sont difficiles à tenir. Alors, comment tu passes de cette indiscipline généralisée, de cette anarchie pas encore bien géré au niveau du public, ça passe par des débordements, ça passe par des situations que tu as évoquées, où les punks sont mis à l'amende, c'est le mot qu'il faut employer, hein, par les uns et par les autres, et ça met quelques années à se régulariser. Alors, ça se régularise à partir du moment où les gens qui foutaient le bordel au concert deviennent des services d'ordre, ou pour ne pas les nommer, deviennent des gens qui organisent des concerts. Voilà comment c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de leur parler encore.
Philippe, tu avais une question ?
En fait, c'était plus une remarque en lien avec ce qui a été présenté juste avant autour des fanzines. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on a un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aller, toi, la volonté d'aller chercher de la violence, puis de se dire, finalement, il n'y a pas vraiment ce que j'attendais. Ou alors, faut dire autre chose. Parce que si les paroles ne sont pas violentes, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette impression de violence ? Qu'est-ce qui fait ? Et impression de violence pour qui ? Est-ce que c'est pour nous aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour je sais pas, les parents des gamins qui allaient écouter Luc en 83 ? Elle vient d'où, la violence ? Et je pense que c'est un enjeu pour nous. Là, on a une thématique. Et peut-être qu'on veut trop aller chercher. Alors que peut-être, je sais pas qui parlait tout à l'heure, je crois que c'est Marie qui parlait de colère. Peut-être qu'il faut aller chercher du côté de la colère, du côté de l'énergie, mais c'est pas parce qu'il y a de la colère qu'il y a de la violence. C'est pas parce qu'il y a de l'énergie qu'il y a de la violence. Et en même temps, il y a eu une très bonne remarque que tu as faite par rapport à Elisa, je crois, la jeune femme qui a travaillé avec toi, qui dit bah, elle a fait des fautes, elle a pris des images qui étaient violentes alors qu'elle n'était pas. Bah oui, parce que pour elle, ça a été violent. Pour elle, elle voyait un chanteur qui était en phase d'énergie, peut-être avec une mimique, avec des grimaces, avec une posture, voilà, une posture physique qui fait que c'est violent pour les gens qui ont l'habitude d'aller au concert classique, quoi.
Moi, en fait, ça, forcément, ça fait écho à ma première expérience de concert de la souris et des échos que j'en avais où j'étais au début de ma thèse. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais aller voir ça, je vais aller voir ce nom, ce que je ne connais pas. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas forcément la violence des compos ou quoi que ce soit, c'est qu'il y avait certaines personnes plus âgées dans le public qui étaient, voilà, qui étaient comme ça, bien massives, et quand elles poussaient, ben, moi j'allais au bout du Bataclan. Et je tenais pas debout, et même à un moment donné, c'était le concert, pour dire, moi j'arrive très tard dans mes concerts de l'SD, c'était le concert du Bataclan de 2010, et à un moment donné, pour rien n'a encore changé, il y a Pierre-Paul Jacques qui monte sur scène, et moi à l'époque, je connais pas Pierre-Paul Jacques, je le connais pas en tant que Pierrot le Fou. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ce mec? Pour moi, c'était je sais pas jouer autre chose que du reggae, quoi, Pierre-Paul Jacques. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Et ensuite, ben, c'est comme ça que j'ai essayé de dérouler l'histoire. Je me dis, ah ouais, il y a eu ces histoires, il y a eu, et c'est peut-être en rentrant par le public que cette violence s'exprime. Et j'ai eu cette périphrase qui s'est imposée, mais vraiment. Au bout de la première, deuxième chanson, au sujet de LSD, j'ai dit « LSD, c'est la poésie du parpaing ». Je ne sais pas comment, mais c'est comme j'écris à côté, c'est ce qui m'est venu directement. Il y a cet aspect poétique, mais direct, droit dans ta figure. Il y a effectivement, on pourrait dire, oui, dans Rock'n'Roll Vengeance, il y a des anaphores avec chaîne qui est utilisée de deux façons différentes. Mais il y a vraiment cet aspect, voilà, tu as une chaîne de télévision, le confort, et moi, une chaîne à vélo directe, contre-pied, contre-point. Mais pas de triptyque, bière, boire et autre chose. Voilà.
Bien. Je crois qu'on peut remercier Nicolas s'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour cette communication sur le corpus.